Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de Mélomanie, le magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, où nous nous réjouissons, malgré le couvre-feu maintenu et les salles de concert toujours fermées au public, de vous annoncer un petit regain d'activité depuis la semaine dernière, grâce à des concerts diffusés en direct sur les réseaux sociaux, une bonne nouvelle qui en appelle d'autres, comme vous allez le constater lors de cette émission. Ces concerts retransmis sur les réseaux sociaux, beaucoup d'entre vous le savent déjà, ce sont pour la plupart ceux de l'Orchestre National du Capitole. Il y en a eu un samedi dernier et il va y en avoir beaucoup d'autres dans les prochaines semaines, puisque contrairement à l'an passé où le confinement était arrivé au pire moment pour elle, les franco-russes vont avoir lieu cette année avec une programmation réduite certes, mais tout de même de très belles choses sont programmées du 13 mars au 1er avril. Pour parler de cette programmation des 3e franco-russes, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thierry Dargoubet, délégué général de l'Orchestre National du Capitole et organisateur du festival. À ses côtés, mon fidèle complice Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur musical pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Toutefois, avant d'explorer la programmation des franco-russes, nous allons d'abord faire un petit retour arrière sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière.
Mélomanie, retour arrière.
Bienvenue aussi à tous les deux. L'événement que j'évoquais à l'instant, nous vous l'avions annoncé et présenté lors de notre précédent numéro. Il s'agit du concert qu'a donné l'Orchestre National du Capitole le 6 mars à la Halle aux Grains. Il était retransmis en direct, comme d'habitude, sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Et il proposait un programme romantique allemand avec le prélude et Liebestod de Tristan Isolde, l'opéra de Richard Wagner, suivi d'Ainsi parlait Zarathoustra, le poème symphonique de Richard Strauss, des œuvres magnifiques que l'Orchestre National du Capitole a joué sous la direction de Thomas Gugais, pour qui c'était une première à Toulouse. Et on va commencer par parler de lui, Serge, parce qu'il nous a beaucoup plu, ce jeune chef allemand.
Ah, tout à fait. Je crois qu'il a séduit tous les auditeurs, probablement sur Internet, et pratiquement la majorité des musiciens, tous les musiciens de l'orchestre, puisqu'il y a eu une espèce d'échange entre les deux, et on a l'impression que le courant est vraiment passé, à la fois dans un sens et dans l'autre. Donc c'est un jeune chef qui a 27 ans, ou même pas, qui a quand même déjà une histoire. Hein. Il a été l'assistant d'un grand chef, puisque Daniel Barenboim a fait ses preuves depuis très longtemps. Et donc il l'a assisté pendant des années, il a été à Berlin avec lui, et il a même occupé le poste de pianiste répétiteur au Staatsoper de Berlin. Il a été nommé chef d'orchestre d'ailleurs au Staatsoper de Stuttgart à partir de la saison 2018-2019. Donc il a déjà une carrière devant lui, derrière lui plutôt, et il en a
aussi,
une devant.
Devant
ah oui, ça, sans problème, puisque ce qui est surprenant avec lui, c'est non seulement la cohésion qu'il obtient de l'orchestre, les couleurs qu'il permet à l'orchestre de diffuser, et un sens des nuances qui est tout à fait incroyable. Il y a des nuances qu'on n'entend jamais, et là, on les découvre lorsqu'il dirige ce répertoire romantique. Et
alors, une direction, une gestique très active.
Hein, ah oui, absolument.
Foisonnante, je dirais même. Il donne énormément d'indications aux musiciens.
Absolument.
Il fait vraiment partie des chefs qu'il faut regarder tout le temps. Hein, il faut l'avoir à l'œil.
Oui, j'imagine. Oui, j'imagine. Mais apparemment, il a beaucoup travaillé les répétitions. Hein, donc, pour obtenir le résultat qu'il a obtenu le soir du concert, c'était vraiment...
Et tout ça sans partition.
Belle performance.
Il dirige sans partition.
Non, non, ça devient la mode hein, parmi
oui,
les
vrai.
Jeunes. Hein. Je rappelais ce que disait Toscanini, hein. Il y a les chefs qui ont la tête dans la partition et il y a ceux qui ont la partition dans la tête. Ben, lui, comme les autres, il a la partition dans la tête, donc bravo.
Voilà, donc deux œuvres au programme, on peut peut-être en dire quelques mots, parce que ce qu'il nous a fait sur la première œuvre, le prélude donc de Tristan et Isolde, c'était fantastique.
Ah, fantastique, parce que non seulement il y a un soin particulier des détails, mais surtout la construction générale, le fil conducteur de l'œuvre est mis en évidence, et il y a une émotion incroyable, enfin le grand crescendo, on connaît le grand crescendo de ce prélude, mais ça va du murmure à l'incandescence avec la blessure, enfin c'est une chose tout à fait incroyable qui, moi, m'a ému aux larmes. Hein. Donc, vraiment, une grande interprétation. Et avec la mort d'Isolde, la version orchestrale, pareil, hein, il y a une espèce de cheminement vers la lumière, vers la paix, après les angoisses et les passions du prélude. Donc, vraiment, un grand moment de musique et d'émotion.
Alors, on va profiter du fait qu'on ait Thierry Dargoubet avec nous pour lui poser quelques questions sur ce jeune chef allemand Thomas Gugeis. Vous l'avez sorti d'où ? Vous aviez un œil sur lui depuis quelque temps ou c'est assez récent ? Vous l'avez repéré récemment ?
C'est un garçon qui a littéralement explosé après une représentation de Salomé à la fin de l'année 2018 en remplacement de Christophe von Dornani. En fait, c'est Daniel Barenboim qui l'a façonné, qui l'a créé, puisqu'il a énormément assisté. Il a d'ailleurs beaucoup travaillé aussi avec Cornelius Meister à Stuttgart. Et il est revenu d'ailleurs maintenant Kapellmeister de Barenboim à Berlin. Mais au-delà de ça, Daniel Barenboim, parfois, veut transmettre. Et un des premiers talents auxquels il a vraiment transmis, c'est l'Afshani, qui avait fait des débuts spectaculaires à Toulouse, puisqu'il avait dirigé deux ou trois programmes absolument magnifiques. D'ailleurs, avant tous les orchestres français. Depuis, il est à Rotterdam, il est à Israël, etc. Et moi, c'est vrai, je l'ai choisi un peu au dernier moment sur la recommandation de Barenboim, évidemment, sur ce que j'avais entendu de Salomé. Et puis surtout, voilà, il dirige maintenant à la Dresde, il va aller à Vienne, il va au Covent Garden. Il a un planning d'opéra absolument incroyable, mais sa vie symphonique est plus modeste. Et il veut commencer à travailler son répertoire symphonique. Donc c'était en fait une de ses premières rencontres avec un grand orchestre symphonique. Et le résultat, je dois dire, a dépassé très largement mes espérances, parce que comme Serge venait de le décrire magnifiquement, c'est un concert très particulier, où il a fait un travail absolument phénoménal. Et il y avait, à mes yeux, à mes oreilles, une véritable rencontre osmose entre l'orchestre de Toulouse.
Très important,
et voilà. Moi, ce qui m'a le plus fasciné, au-delà de... Bon, c'est quelqu'un qui sait visiblement qu'il y a des outils, qui demande à l'orchestre et qui obtient. En répétition, j'ai suivi très soigneusement. Et donc, il a pu le refaire, si vous voulez, en concert. Mais avec une maturité et je dirais une pensée musicale tout à fait exceptionnelle à 27 ans. Ça, c'est très particulier. Il y a beaucoup de jeunes chefs finlandais magnifiques qui sont dans des belles classes de direction d'orchestre, mais là, c'est la pensée musicale, moi, au fond, qui m'a énormément touché. Alors, on n'a pas le retour de tous les musiciens, mais visiblement, après le concert, ils avaient l'air quand même.
Ah oui, ils l'ont longuement applaudi.
Et une autre particularité, donc vous savez qu'on donne ces concerts sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, donc avec des audiences suivant les jours, les horaires, etc. L'audience était plutôt une audience moyenne pour nous ce jour-là. Ouais. Mais bizarrement, comme ce concert fait le buzz, pas qu'en France, hein, pas qu'à Toulouse, France, mais à l'international, la croissance de l'audience est incroyable sur YouTube. C'est notre community manager, Anaë, qui tout à l'heure me dit « Thierry, regardez ce qui se passe. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. »
Ah, ça fait plaisir. Hein. Voilà. Alors, vraiment, vraiment.
Et ça se passe à Toulouse. Et le tout, bizarrement, avant un événement très cher aux yeux de Tougan et aux miens, évidemment, parce que s'agit des francs-russes.
Des francs-russes dont nous allons parler dans quelques minutes. En tout cas, ce Thomas Gugeis, ben, on espère qu'on le reverra, mais je pense qu'on le reverra. Peut-être qu'on pourra même le revoir pendant des années, qui sait. On sait que la succession de Tougan Sokiev est ouverte. Alors, ça peut être un candidat, sans doute.
À mes yeux, c'est un candidat, mais c'est surtout d'abord les musiciens qui sont au centre de la réflexion. C'est eux qui vont vivre avec le chef d'orchestre. Et après, c'est le maire président Jean-Luc Moudin qui nommera sur les recommandations, évidemment, des musiciens. Oui. Et enfin, probablement de la mienne aussi, bien sûr. Mais...
Nous allons écouter un extrait de ce très beau concert avec cette interprétation de Liebestod, La mort d'Isolde de Tristan Isolde, l'opéra de Richard Wagner, interprété par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Thomas Gugeis. Liebestaut de Tristan et Isolde, l'opéra de Richard Wagner, interprété par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Thomas Gugais, extrait du concert du 6 mars à la Lograin, que vous pouvez toujours revoir sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Serge, on va dire un mot, parce qu'on n'en a pas parlé, sur l'interprétation d'Ainsi parlait Zarathoustra, tout de même, Richard Strauss.
Ah bah oui, c'était magnifique aussi, hein, effectivement, avec évidemment cette ouverture qui donne le frisson chaque fois. Et là il y avait une dynamique, une espèce de là aussi, de crescendo tout à fait incroyable. Avec, il faut quand même le souligner, l'intervention de Christy Gessi, qui est le super soliste violon solo donc, de l'orchestre, et qui a fait une prestation magnifique, hein, d'ailleurs.
Comme toujours,
on doit dire. Et alors, c'est amusant, parce qu'il est acclamé par ses collègues chaque fois que le chef le fait se lever, et c'est à juste titre, hein, parce que c'était vraiment très bien, avec ce sens des contrastes incroyables que le chef a développé tout au long de cette interprétation. Vraiment magnifique.
Voilà, ben c'était un concert magnifique, de bout en bout, et ma foi, comme je l'ai dit, j'espère qu'on reverra ce jeune chef allemand à Toulouse dans les années qui viennent. Voilà pour ce petit retour arrière, courte pause, et l'on se retrouve pour l'agenda avec Thierry Dargoubet et Serge Chauzy. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie en compagnie de Serge Chauzy et Thierry Dargoubet, délégué général de l'Orchestre National du Capitole et organisateur des Franco-Russes, dont la troisième édition a lieu à Toulouse du 13 mars au 1er avril. Alors comme j'ai dit au début de cette émission, la programmation de cette troisième édition est réduite par rapport à ce qu'elle aurait dû être, mais vous avez tout de même décidé de la maintenir malgré l'impossibilité d'ouvrir les salles au public. Est-ce que vous avez songé à tout annuler tout de même, ou est-ce qu'il était évident pour vous que ce festival 2021 devait avoir lieu quoi qu'il arrive, avec ou sans public à la Lograin?
Non, c'est une réflexion qui a été finalement prise assez tardivement. On a pu l'apprendre avec Tougan Sokiev, qui est le directeur artistique qui tient énormément à ce festival. On a pris la décision de maintenir sous un format digital, parce que le Toulouse Métropole et son président, Jean-Luc Moudin, sont très attachés au streaming live de l'orchestre. Et donc, on est parti de cette idée. Alors après, j'ai vérifié avec les partenaires qui ont été évidemment très atteints, que ce soit les grands interprètes, soit Jackie Oyon de la
Théâtre Garonne,
du Théâtre Garonne, Franck Loiret, évidemment,
la Cinémathèque,
Annabelle Ténet, des Abattoirs, qui était un nouveau partenaire, la Cité de l'Espace, d'ailleurs, qui tenait absolument à faire quelque chose, et d'autres, comme le Memento à Auch. Donc, seule la Cinémathèque a pu continuer à imaginer quelque chose, et donc ils vont diffuser
un
ciné-concert avec Le Prêt de Bégine, qui est une œuvre de un film maudit des Einstein, ouais, qui a été en fait hyper censuré. Il ne reste plus qu'une image par plan, par séquence, mais c'est un film d'une poésie incroyable. Et donc voilà, ça c'est maintenu, donc j'en suis vraiment très heureux. Et puis au fond, en discutant, ce festival, il a été créé grâce au Dialogue de Trianon, qui est une association qui a été créée par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine en 2017. Et donc c'est 15 membres du côté français, 15 membres du côté russe, de très grandes personnalités, de beaucoup de diplomates, finalement qui nous ont un peu poussés. Et donc l'idée aussi, c'était de faire des grands entretiens avec des personnalités musicales autour de Tougan Sokiev pour parler culture, pour parler diplomatie. Évidemment, c'est très compliqué.
Tous les liens entre la Russie et la France.
C'est très compliqué, mais au fond, ce festival, il est là pour jeter des ponts, si vous voulez, entre le peuple français, entre le peuple russe, pour mettre en lumière le patrimoine artistique de nos deux pays, pour essayer de développer quelque chose autour de ces deux cultures.
Et qui existe, qui a longtemps existé.
Depuis deux siècles, voilà. Et donc, on a voulu tout simplement exister ce festival hyper light, centré évidemment quasi complètement autour de l'orchestre, mais également donc avec ces entretiens qui, j'espère, recevront un certain écho.
Oui, alors c'est pour ça. J'imagine que c'est devenu les franco-russes et non plus seulement les musicales franco-russes pour souligner l'aspect aussi interdisciplinaire de cet événement.
Je vous parlais des Abattoirs, je vous parlais de la Cité de l'Espace, mais encore d'autres partenaires que je ne préfère pas encore citer. Mais vraiment, c'était l'idée d'une grande thématique autour de la rencontre entre le peuple russe, le peuple français, les arts russes et français.
C'est un événement culturel, culturel,
voilà,
très large.
Il est question de cinéma, de littérature, la musique évidemment, mais aussi, on voit la Cité de l'Espace, donc la science,
oui.
La peinture avec les Abattoirs.
Voilà, oui. Et donc j'ai oublié de citer effectivement notre ami Christian Torel, qui va faire des conférences, si vous voulez, sous forme d'un grand entretien, avec le grand traducteur
André Markovitch,
qui a traduit de manière fulgurante, je dirais, le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov, qui est en fait quasiment un autre roman, si vous voulez.
Oui. Mais lire les romans, par exemple, de Dostoïevski traduits par Markovitch, c'est autre chose.
Hein. C'est autre chose.
Je peux le confirmer.
C'est absolument autre chose.
J'écris mes châtiments, voilà, chez moi par Markovitch.
Mais également, il y aura des entretiens avec Françoise Morvan, qui est une grande dramaturge, avec Valérie Posner, qui est une grande historienne du cinéma russe et soviétique. C'était l'idée d'un festival interdisciplinaire. C'est donc un festival centré autour de l'orchestre.
Voilà, alors, vous avez dû retirer, comme je l'ai dit, quelques petites choses, même des grandes choses de la programmation telle qu'elle était prévue, notamment, évidemment, les concerts du Bolchoï qui, traditionnellement, ouvrent le festival. Bon, cette année, ce n'était pas possible, évidemment.
C'est pas possible parce que le Bolchoï, si vous voulez, c'est l'idée, c'est le festival n'est pas producteur. Le festival est là simplement pour mettre en synergie, pour fédérer une envie, un désir de tous les partenaires, qu'ils soient l'Orchestre du Capitole, mais des grands interprètes, qui accueillaient les deux ou trois concerts du Bolchoï. Et pour Tougan, évidemment, c'est un crève-cœur incroyable. Mais également pour le Vladimir Ourine, qui est l'intendant du Bolchoï. Donc on est évidemment en contact avec toutes ces personnalités. Espérons qu'il y aura simplement une édition 2022 qui pourra voir le jour, je ne sais pas.
Oui, espérons-le pour tout un tas de raisons. Pour tous les événements culturels en général.
Mais Tougan est véritablement le symbole, si vous voulez, l'incarnation de ce rapprochement culturel.
Oui, figure emblématique, comme on dit.
C'est l'idée d'un coup de projecteur entre Toulouse et Moscou.
Oui, parce qu'on espère toujours...
Toulouse, c'est une grande ville aussi, qui peut dialoguer avec une grande capitale.
Et on espère toujours qu'il y aura une réplique, je suppose, à Moscou.
Et donc, on
était en russo-français.
On était en Zoom avec Vladimir Ourine et Tougan Tsokhiev il n'y a pas très longtemps. Effectivement, on a rediscuté de cette idée. C'est une idée, évidemment, qu'il faut essayer de mettre en œuvre.
Un peu pris du retard avec la situation actuelle, mais le but, en tout cas, c'est d'arriver à ça. Alors, on va regarder maintenant la programmation de cette troisième édition des Franco-Russes. Il y a un compositeur qui est très présent, dont l'œuvre est un peu le fil rouge de la programmation, c'est Serge Prokofiev. Pourquoi vous l'avez choisi comme figure tutélaire de ce festival 2021? Alors peut-être parce qu'il incarne, avec d'autres tout de même, les liens qui unissent la Russie et la France sur le plan artistique.
Voilà, vous venez de le
dire. Il a vécu en France, oui.
Vous venez de le dire tout simplement. Et puis au-delà de ça, si vous voulez, ce que j'ai remarqué au fil des années, c'est que la musique de Prokofiev était une musique merveilleusement servie par les musiciens de l'orchestre. C'est un grand orchestrateur et les couleurs de l'Orchestre de Toulouse dans cette musique, en particulier quand c'est dirigé par Tougan Tsokhiev ou par d'autres d'ailleurs, c'est toujours un moment très intéressant.
Mais je crois bien me souvenir que la première intervention de Tougan Tsokhiev à Toulouse,
c'était pour
en dirigeant l'Orchestre National du Capitole, c'était avec Roméo et Juliette de Prokofiev.
Voilà, et c'était à la fin du mois d'octobre 2003, il y aura bientôt presque 18 ans, et ça a été un coup de foudre extraordinaire. Complé. Et moi, je me rappellerai toujours des 5 premières minutes de la répétition, si vous voulez, de Tougan et de l'orchestre. Et voilà, c'était une évidence.
Oui, oui, je confirme.
Alors, pour ouvrir le festival ce samedi 13 mars à 18h à la Lograin, vous avez confié la direction de l'orchestre du Capitole à un chef ukrainien, Kirill Karabits, qui lui aussi symbolise les liens entre la France et le monde slavo-russe, puisqu'il vit à Paris.
Et oui.
Oui, alors il est ukrainien. Donc, ce qui peut d'ailleurs poser des problèmes diplomatiques. On est là justement pour les résoudre. Mais alors, voilà. Il vit à Paris. Et autre particularité, ce chef devait diriger le concerto pour orchestre de Lutoslavski au mois de janvier.
Oui.
Et il a été positif au Covid 2 heures avant de prendre l'avion pour aller à Toulouse.
Maintenant, il est immunisé, c'est très bien.
Il est immunisé.
Voilà.
Et surtout, il vient d'enregistrer une magnifique intégrale Prokofiev avec l'orchestre de Mournomouv dont il est directeur musical. Donc, j'ai juste le temps de réécouter quelques mesures de la 5e de symphonie de Prokofiev et j'étais tout à fait emballé. Donc, une autre rencontre, en tout cas, sur le papier, entre les musiciens et ce chef.
Alors, il a 44 ans, fils d'un compositeur, d'ailleurs, Ivan Karabits, Kirill Karabits, qui a été distingué par une récompense de très haut niveau, puisqu'il a été le chef de l'année 2013 pour la Royal Philharmonic Society, Kirill Karabits. Oui. Donc, programme tout Prokofiev. Alors, Serge, un mot sur les deux œuvres qui vont être jouées.
Oui, alors, la première œuvre au programme, c'est la suite, le lieutenant Kijé, que Prokofiev avait composé.
La musique du film,
hein, Lieutenant Kijé.
Inspiré du roman de Tsiganov.
Oui, et qui est une intrigue assez amusante. Hein. Donc, et il en a tiré cette suite qui est très belle, hein. Vraiment une belle orchestration comme toujours, hein, chez Prokofiev. Et puis la deuxième est un grand classique, c'est la 5e symphonie de Prokofiev, c'est peut-être la plus jouée, hein, la plus souvent interprétée en concert. Donc là, je pense qu'on a vraiment un beau tableau représentatif de l'art de Prokofiev.
Et ce ne sera pas la première fois que l'Orchestre National du Capitole va interpréter la symphonie numéro 5 de Prokofiev. J'en ai une version qui date de 2013. Elle est dirigée par le chef vénézuélien Christian Vasquez. Deuxième mouvement, Allegro Marcato de la symphonie numéro 5 de Serge Prokofiev, interprété par l'orchestre du Capitole et dirigé par le chef vénézuélien Christian Vasquez. C'était à l'Allograin en janvier 2013 et ce sera donc encore à l'Allograin ce samedi 13 mars à 18h, mais avec Kirill Karabits à la baguette cette fois-ci pour le concert d'ouverture des 3e franco-russes. Au programme également, le lieutenant Kijé du même Prokofiev. Serge Prokofiev qu'on le retrouve au programme du concert suivant, vendredi 19 mars, toujours à l'Allograin mais à 20h. Attention, c'est à 20h, ainsi qu'une autre connaissance du public toulousain, le chef russe Maxime Emelianichev, qui va diriger l'Orchestre National du Capitole lors de cette soirée. Maxime Emelianichev, il fait un peu partie de la maison maintenant, Thierry Dargoubet.
Donc la dernière visite de Maxime, effectivement, c'était lors du programme Schumann, oui. Au mois de janvier dernier.
Nous y étions. Ah oui, oui.
C'est évidemment très particulier. Moi, personnellement, j'ai évidemment beaucoup aimé. Et les auditeurs, d'ailleurs, de Mezzo et de Medici ont également beaucoup aimé. Il devait diriger les noces de Figaro.
Hélas.
Voilà, hélas, qui n'ont pas lieu. Mais voilà, il revient dans un programme très particulier pour lui, avec une création mondiale de Benjamin Atahir.
Oui, alors ça, c'est important. Benjamin Atahir.
Alors, ça va être la quatrième ou cinquième avec le Capitole?
Je crois que ça va être la cinquième.
La cinquième, même.
J'avoue, je ne tiens pas les comptes.
Mais Benjamin Atahir, dont il faut dire qu'il faisait partie des nominés des victoires dans la musique classique.
Son tour viendra, je pense, aussi, comme compositeur de
l'année. C'est une pièce pour orchestre à cordes.
Avec toujours un titre improbable,
à la Benjamin, puis avec un jeune violoniste incroyable qui vient d'enregistrer d'ailleurs des sonates de Brahms avec Maxime Emelianichev. Il s'agit d'Ailen Pritchin, qui est un violoniste tout à fait stupéfiant que vous allez découvrir dans le deuxième concerto de Prokofiev, et puis la fameuse première symphonie. La symphonie dite classique de Prokofiev. Oui. Et puis une œuvre alors un peu plus exubérante pour Maxime. J'espère que tout ira bien. Mais non, c'est un magnifique programme. Magnifique programme.
Oui, il y aura l'ouverture de Roméo et Juliette.
Comme il faut raconter des petites anecdotes à vos auditeurs, donc les artistes russes qui viennent aujourd'hui sont obligés de faire une septaine.
Ah. Et oui.
Donc Maxime vient d'arriver hier soir à Toulouse.
Il a fallu l'enfermer.
Évidemment, le premier réflexe, c'est d'appeler notre chargé de production pour lui dire « Camille, il faut absolument que je trouve un piano demain. Est-ce que je peux venir à l'Allograin ?»
Il doit
On
être
est en train
au
d'essayer
cage.
De l'enfermer, de lui mettre un piano.
Il doit être comme un lion au câble.
Ah oui, connaissant Maxime Emelianichev, on l'imagine mal confiné.
C'est une personnalité extrêmement attachante, mais totalement exubérante.
Oui, alors bon, on l'aime beaucoup, nous aussi, parce qu'on l'a vu diriger plus d'une fois maintenant, l'Orchestre du Capitole. Et pas seulement l'Orchestre du Capitole, on l'a vu aussi avec Il Pomodoro, puisqu'il est directeur musical de cette formation.
Non, mais c'est quelqu'un d'incroyable,
puisqu'il est
chef d'orchestre, il joue du clavecin, il joue du piano, et il joue du cornet à bouquin. Quel autre chef d'orchestre joue de tout ça?
C'est une espèce de génie musical, en fait, qui touche à beaucoup de choses. Je parlais de pensée musicale pour le jeune chef allemand, mais Maxime Emelianichev, c'est également tout à fait fait ça et qui est adoré par les chanteurs
oui,
aussi.
Et puis il dirige du baroque au contemporain.
Quoi. Mais oui, absolument.
Ça allait être très très large.
Absolument. Et alors je peux vous donner, encore une fois pour vos auditeurs, un scoop. Cersei di Pomodoro.
Oui.
Qui devait venir dans les grands interprètes au mois de novembre, puis maintenant le 14 avril, qui n'aura certainement pas lieu, est prévu le 1er juillet.
Voilà, on parlait il y a peu de ces concerts qui pourraient être reportés à début juillet.
Voilà. Oui, seraient pour reporter le 1er juillet.
Et là, je pense
Cersei de Handel.
Je pense qu'on peut y compter.
Avec Julia Lesneva, avec Fagioli, et avec surtout sur le podium Maxime Yanichev et un de ses ensembles favoris, Il Pomodoro.
Oui, ça c'est une excellente nouvelle. Donc notez 1er juillet, les grands interprètes, Il Pomodoro, Cersei de Handel. Le programme, donc peut-être un mot, les trois œuvres qui vont être jouées, on les a annoncées, mais vous pouvez peut-être les redire.
En fait, quatre œuvres, puisqu'il y a deux œuvres de Prokofiev, le concerto pour violon numéro 2, la symphonie numéro 1, dite classique, la création de Benjamin Atahir, dont le titre est 117.2c.
Oui, moi, les titres d'Atahir, je pense que ça ne parle qu'à lui, mais je me trompe peut-être.
Mais vous avez raison. Ça jette un voile mystérieux.
Ça intrigue.
Oui, oui. Et puis, dernière œuvre, l'ouverture fantaisie Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Donc, œuvre hyper romantique si l'année.
Nous allons faire connaissance avec le violon et le talent d'Hélène Pritchin grâce à cet extrait du concerto pour violon numéro 2 de Serge Prokofiev. Il s'agit du deuxième mouvement Andante assez. Extrait magnifique du concerto pour violon numéro 2 de Serge Prokofiev, le deuxième mouvement Andante assez, interprété par Hélène Pritchin. Vous pourrez donc découvrir le violoniste russe à la Halle au Grain vendredi 19 mars à 20h, où il va jouer justement le concerto pour violon numéro 2 de Prokofiev. Il y a également au programme de ce concert la première symphonie de Prokofiev, l'ouverture de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, et donc la création mondiale de 117.2c du compositeur toulousain Benjamin Atahir, le tout sous la direction de Maxime Emelianichev. Notez que ce concert sera enregistré et diffusé sur France Musique le lundi 12 avril à 20h. Le concert suivant a lieu samedi 27 mars, également à 20h à la Halle au Grain. Nous allons avoir le plaisir d'y revoir Tougan Sokiev diriger son cher Orchestre National du Capitole dans un programme entièrement dédié à Chostakovitch, un compositeur Thierry Dargoubek apprécie tout particulièrement, le directeur artistique des Franco-Russes.
Ben oui, il est littéralement porté par ce compositeur. Et une des idées, justement, avant qu'il ne quitte Toulouse un jour ou l'autre, c'est de pouvoir enregistrer ses symphonies de Chostakovitch.
L'intégrale, les 15.
Donc c'est une étape supplémentaire. Alors je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, nous avons la volonté.
Alors le programme, Serge, avec un soliste invité qu'on connaît bien à Toulouse.
Ah bah oui, il s'agit de Vadim Gloutzman, avec lequel il a fait d'ailleurs un DVD magnifique. Et donc il y aura le deuxième concerto pour violon, de Chostakovitch, et sa symphonie numéro 5, là aussi l'une des plus célèbres des symphonies de Chostakovitch, avec cette ambiguïté incroyable qu'il y a dans toute musique de Chostakovitch, où quand les officiels croyaient voir une glorification du régime, lui, c'était la glorification du désespoir.
Il y a un sous-texte toujours dans les symphonies de Chostakovitch.
C'est toujours incroyable chez Chostakovitch. Donc, un beau concert en perspective. Là.
Et toujours avec quand même une note d'espoir.
Oui, oui,
absolument. La finale de la musique de Chostakovitch.
Oui, il y avait toujours parfois une petite pointe burlesque.
Voilà, ironique, tout ce que vous voulez, mais un peu d'espoir. Et au fond, les franco-russes, pour nous aussi, c'est l'espoir qu'on redémarre.
Oui, voilà.
Et au fond, je pense qu'on va redémarrer.
Maintenant, moi, je commence à y croire. J'espère, voilà. En tout cas, peut-être au mois de mai, en tout cas au mois de juin, j'en suis quasi certain, il y aura de nouveau des concerts ouverts au public. Ouais. On peut l'espérer.
Et c'est un peu, d'ailleurs, pour revenir au concert de samedi dernier, dans la musique de Zarathoustra aussi, c'était une espèce d'optimisme, si vous voulez.
Aller vers la lumière.
Vers la lumière. Ouais.
Voici un extrait de la 5e symphonie de Dmitri Chostakovitch, le 4e mouvement Allegro non troppo, dans une version de l'Orchestre National du Capitole, sous la baguette, bien sûr, de Tougan Sokiev. Le 4e mouvement Allegro non troppo de la symphonie numéro 5 de Dmitri Chostakovitch, interprété par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev, une œuvre que vous pourrez entendre lors du concert du 27 mars, retransmis en direct à 20h sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Il y a également au programme une autre œuvre de Chostakovitch, le concerto pour violon numéro 2, avec Vadim Glouzman en soliste invité. Pour le concert de clôture des Franco-Russes 2021, jeudi 1er avril à 20h, c'est un autre habitué de la Allograin que nous allons retrouver aux côtés des musiciens de l'Orchestre du Capitole et de Tougan Sokiev, le pianiste Bertrand Chamaillou, qu'on ne présente plus guère à Toulouse, sa ville de naissance. Vous l'invitez chaque année depuis la première édition en 2019, Thierry Dargoubet. Oh, c'est un peu une évidence, Bertrand Chamaillou, dans la programmation des Franco-Russes.
Voilà, vous venez de le dire, c'est une évidence. C'est un musicien qu'on adore, évidemment, et que Tougan adore surtout. Il y a une complicité absolument incroyable entre ces deux artistes. Et donc, oui, il me paraissait très clair, qu'ils puissent travailler de nouveau et nous régaler. Alors, en fait, par rapport à ce que nous avions annoncé sur le programme de brochure, toujours une petite différence, en fait, qui est liée à plusieurs problématiques, c'est celle de la distanciation, de ceci. Donc, on devait au départ imaginer autour de Stravinsky. Et Tougan m'a dit, ça, c'est pas possible. Stravinsky, dans une distanciation importante avec...
Vu le nombre de musiciens,
voilà, m'a dit, non. Donc, on va... Chostakovitch, il n'y a pas de problème. Tchaïkovski, puisque c'est la cinquième de Tchaïkovski. Ça, j'ai envie de le refaire parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas bizarrement dirigé une symphonie de Tchaïkovski avec l'orchestre.
Et oui.
C'est plutôt des chefs invités. Et moi, je suis très heureux parce que, au fond, on la découvre Tougan, c'était évidemment Roméo et Juliette de Prokofiev, mais très rapidement ensuite, c'était la quatrième et la cinquième Tchaïkovski. C'était les premiers disques de l'orchestre avec lui, chez Naïve. Et au fond, il revient à ses premières amours et avec une nouvelle maturité qu'il a acquise, en particulier au Bolchoï, en dirigeant tous les opéras de Tchaïkovski. Jeanne d'Arc, Yolanta, Pique-Dame,
Onegin,
qu'il avait d'ailleurs donné l'année dernière avec le Bolchoï. Et au fond, voilà, Tougan est tellement heureux à Toulouse que sa volonté, si vous voulez, artistique, est pour moi extrêmement importante.
Alors Serge Chosy, donc on l'a dit, il y a la symphonie numéro 5 de Tchaïkovski.
Numéro 5, trois symphonies numéro 5 quand même au programme.
Il y a le fil rouge et Prokofiev et le chiffre 5.
Bon, voilà. Chiffre 5.
Alors l'autre œuvre au programme, celle que va jouer Bertrand Chamaillou.
Eh bien c'est le concerto pour piano orchestre numéro 2 de Franz Liszt.
Alors là c'est un de ses compositeurs de prédilection.
Ah, tout à fait, il adore jouer Liszt. Là,
il avait enregistré les années de pèlerinage.
Bien entendu, il les avait données d'ailleurs en intégrale.
Oui. Au piano jacobin,
c'est incroyable. Donc là, on est tout heureux de le retrouver dans ce deuxième concert.
Et donc, c'est un programme franco-russe. Alors, quelle est l'œuvre française un pianiste français, un orchestre français et une œuvre française.
Et une œuvre française, Les Offrandes oubliées d'Olivier Messiaen. Donc, une œuvre du XXe siècle.
Un programme très
une
varié.
Magnifique,
Une œuvre magnifique que l'orchestre d'ailleurs a beaucoup donné avec Tougan en tournée, parce que quand nous sommes en tournée, Tougan est un chef russe, l'orchestre est français, souvent on a un soliste français. Et donc, on fait des mix de programmes russes et français. Et donc, ils ont appris, je dirais Tougan et l'orchestre, à diriger de manière très particulière cette œuvre.
Oui, et
je pense qu'ils vont, en revenant justement avec un regard différent, je pense que ce sera très intéressant.
Alors, je n'ai pas d'extrait du concerto pour piano numéro 2 de Liszt, interprété par Bertrand Chamaillou, à vous faire écouter. En revanche, j'en ai trouvé un du premier concerto de Franz Liszt. En plus, il y est accompagné par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Tougan Sokiev. C'était il y a 9 ans au Théâtre Colón de Buenos Aires, lors d'une tournée de l'orchestre en Amérique du Sud. Premier concerto pour piano de Franz Liszt, un extrait d'une version interprétée par Bertrand Chamaillou, accompagné par l'Orchestre National du Capitole, sous la direction de Tougan Sokiev. Ils sont tous à l'affiche du concert de clôture des Franco-Russes 2021, jeudi 1er avril à 20h à la Lograin, où seront également interprétées donc les Offrandes oubliées d'Olivier Messiaen et la symphonie numéro 5 de Tchaïkovski. Je précise que ce concert sera retransmis en direct sur France Musique et qui sera diffusé en différé sur Medici TV.
En direct sur Medici.tv.
Ah, c'est aussi en direct,
voilà.
D'accord.
Et ça sera gratuit pendant 15 jours sur Medici.tv et ensuite payant.
Oui, voilà, j'avais noté en direct puis en différé sur Medici.
Oui, voilà, donc on pourra...
Voilà, donc on pourra le...
C'est la fameuse chaîne de musique classique, enfin sur Internet, qui d'ailleurs se développe considérablement, malgré d'ailleurs la pandémie. Et c'est d'ailleurs grâce à cette chaîne et à la chaîne Mezzo que l'Orchestre du Capitole est de plus en plus connu à l'international. Et donc nos rayonnements, on a un rayonnement évidemment local, national, international, dû à, grâce à Medici.tv, grâce à Mezzo et grâce évidemment à nos tournées.
Il y a un concert dont nous n'avons pas parlé et qui va être diffusé entre-temps le lundi 22 mars à 20h en différé de la Lograin. C'est un concert organisé pour AIDA, l'association des mécènes qui soutient l'Orchestre National du Capitole et le Théâtre du Capitole d'ailleurs. Alors, il va être enregistré quand ce concert est diffusé par qui? Alors, c'est sur la page Facebook, c'est...
Alors, l'enregistrement sera fait un petit peu avant, de manière à ce qu'on puisse faire un petit montage pour les musiciens. Mais la diffusion aura lieu à 20h le 22 mars en direct sur la page Facebook de l'orchestre et ainsi que la page YouTube.
Et la chaîne YouTube de l'orchestre.
La chaîne YouTube de l'orchestre. Et ce concert, c'est vraiment le concert AIDA. Vous savez que l'association AIDA, et je salue son président Pierre Dagrin, qui fait un travail formidable, avec son délégué général d'ailleurs, Vincent Loga, qui accompagne, le rayonnement de l'orchestre depuis 30 ans maintenant. Hein. Donc il y a une très grande fidélité de la centaine d'adhérents à l'association. Et donc ils ont une saison de musique, 3 concerts symphoniques, 1 concert pour les enfants et 2 concerts de musique de chambre. Et donc ce concert de musique de chambre était prévu, d'ailleurs il était prévu dans cette saison, et on a tenu avec Pierre Dagrin, le président, à ce que AIDA ait leur propre concert dans le cadre des
Franco-Russes.
Des Franco-Russes auxquels ils tiennent beaucoup.
Alors c'est très particulier parce que c'est un concert avec un quatuor de clarinettes, clarinettistes de l'Orchestre National du Capitole, et Dieu sait qu'ils sont bons, on le dit souvent émission.
Oh ça oui. Alors voilà quels sont les musiciens qui vont participer. Il y aura Florian Tardy qui joue à la fois de la clarinette et du cor de basset, Victor Bourris, clarinette et clarinette en mi bémol, Laurence Perry, clarinette et clarinette basse, et évidemment David Minetti, le chef de pupitre, qui joue clarinette et corde basset lui aussi également. Donc,
aussi toute la richesse des différentes versions de cet instrument, de cette famille d'instruments finalement qu'on appelle les clarinettes.
Hein. Oui, c'est ça. Donc vraiment, on est très heureux de... Ah bah, d'ailleurs, un quatuor dans lequel il y a la parité, hein, vous aurez remarqué.
Oui, alors je ne sais pas si c'est voulu, mais effectivement.
Deux hommes et deux femmes.
Effectivement.
Et pour dire, c'est Florian est donc soliste,
ben oui.
Et David est soliste. Donc parité également parmi les solistes.
Exactement.
Alors, bravo, tout est équilibré à la perfection.
Ah, oui,
bravo.
Oui.
Le programme est très riche parce qu'il y a des œuvres originales. Il y a beaucoup de transcriptions, bien sûr, pour quatuor de clarinette, mais aussi des œuvres originales.
Ah oui, tout à fait. Alors, un palmarès d'œuvres tout à fait incroyable. Une œuvre de Guillaume Connaisson, funk, puis une œuvre de...
Compositeur contemporain.
Oui, comme d'aujourd'hui.
Bien vivant.
Aram Khatchatourian, en gallo, et puis de Jean Français, compositeur français, russe français. Donc Jean Français, éminemment français, petit quatuor. De Georges Bizet, des extraits de Carmen, transcrits bien entendu. Puis de nouveau un compositeur russe, Sergueï Rachmaninov, avec la fameuse vocalise, qui existe dans des tas de versions d'ailleurs. Et puis de nouveau un compositeur français d'aujourd'hui qui est Thierry Esquech. Alors cette œuvre s'appelle Tango Virtuoso. Et enfin, une œuvre de Claude Debussy, La fille aux cheveux de lin, qui est une œuvre d'une tendresse et d'une beauté incroyable. Donc on est très heureux d'écouter ça par un quatuor de clarinette.
Il y aura ce standard de la musique russe que tout le monde connaît, et Les yeux noirs aussi.
Et voilà, ça sera en fait, apparemment, si l'ordre est maintenu, ce sera par cette œuvre que s'ouvrira le concert.
Voilà,
chant traditionnel russe, Les yeux noirs.
Mais moi, si je peux ajouter une petite chose à propos de ces musiciens, c'est quand Tougan Sekouyev et moi-même avons proposé à l'ensemble des musiciens de l'orchestre de participer au franco-russe de cette édition, on a eu 8 groupes de musique de chambre. En fait, il y a eu une quinzaine de groupes de musique de chambre
qui se sont manifestés.
Ouais. Et donc, Tougan a dû faire le choix, finalement.
Et
ce qui était prévu, c'était 8 concerts de musique de chambre des musiciens de l'orchestre.
Oui, oh là là.
Alors, en région, aux abattoirs, à la Cinémathèque, au Théâtre Garonne, à la Lograin, etc. Et donc, là, évidemment, pour nous, c'est un crève-cœur
parce qu'on
n'a pas pu maintenir. C'était donc une grande tristesse.
Ce n'est que partie remise, j'en suis certain. Alors, nous allons écouter maintenant un extrait d'une des œuvres au programme de ce concert du 22 mars, le très joli et très réjouissant Petit Quatuor de Jean Français. Thank you. Le petit quatuor de Jean Français, interprété ici par le quatuor Niobe, c'est une des pièces au programme du concert Aïda, diffusé lundi 22 mars à 20h. C'est à la Lograin, ça aura été enregistré quelques jours auparavant. Donc il est donné par le quatuor de clarinette de l'Orchestre National du Capitole, composé de Florian Tardy, Laurence Perry, Victor Bourris et David Minetti, à suivre sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre. Autre événement très important de ces franco-russes, événement central même, auquel tient beaucoup Tougan Sokès, c'est la Académie de direction d'orchestre, qui a lieu cette année, mercredi 24 mars à la Lograin, de 10h à 13h, puis de 19h30 à 21h30. Elle est retransmise en direct et en différé sur Medici TV, toujours. Un mot sur cette académie, Thierry Dargoubet, dirigée conjointement par Tougan Sokiev et Sabrié Bekirova.
Alors, au fond, c'est plus qu'une académie, parce que cette académie, c'est un moment, si vous voulez, Tougan va donner de son temps avec l'orchestre et des jeunes académiciennes. Mais plus important, c'est qu'il nous a convaincus, il y a 3 ans, ou 3 ans et demi, de faire venir à Toulouse une de ses collègues, qui s'appelle Sabrié Bekirova, qui avait reçu le même enseignement que lui dans la classe d'Ilia Mouzine, donc au début des années 2000. Et au fond, il est en train de se passer quelque chose à Toulouse, parce que Sabrié travaille avec l'ISDA, et d'ailleurs en collaboration avec l'orchestre, avec les franco-russes.
Bah, c'est un peu un prolongement de ce qu'ils font.
C'est donc
là,
un prolongement tout à fait naturel, mais au-delà de ça, donc elle fait un travail magnifique au quotidien, semaine après semaine. Et maintenant, nous avons noué un partenariat entre donc, l'Académie, la classe de direction d'orchestre, un partenariat avec la Philharmonie de Paris, qui est naturel, puisque ce sont des amis, et en particulier avec le concours La Maestra. Et peut-être que vous avez entendu parler de ce concours et l'émergence d'une jeune vénézuélienne qui est venue en avion sanitaire, qui n'avait pas, évidemment, qui ne pouvait même pas manger. Donc le concours La Maestra et l'Académie l'ont accueillie. Elle a été une des lauréates de ce concours. Et de l'avis même de tous les jurés qui composaient le jury de La Maestra, cette chef vénézuélienne avait un tempérament extraordinaire, mais elle n'avait aucune technique. Et donc, ce que nous avons fait avec la Philharmonie, nous avons accueilli cette personne. Elle a rencontré Sabrié Bekirova. J'ai assisté à une de ses classes et j'ai vu une rencontre absolument incroyable. Et d'ailleurs, on est en train de faire des interviews de cette personne qui dit, au fond, moi, pour moi, c'est la plus belle rencontre de ma vie. C'est la maestra Bekirova parce qu'elle va m'apporter des choses incroyables et elle va continuer à travailler avec elle. Ça, c'est pour la classe de direction. Et l'académie, la masterclass, on va accueillir 3 des lauréates aussi de la maestra, 3 chefs d'orchestre qui vont bénéficier des conseils de Tougan. Et au fond, quoi de plus beau que la transmission, quoi de plus beau à Toulouse, d'imaginer une grande classe de direction d'orchestre qui est avec son point ultime, qui est Tougan Sokiev. Et au fond, donc, les regards de la direction d'orchestre se portera pour de plus en plus, je pense, de jeunes étudiants de direction sur Toulouse. Et donc, il faut en parler et on va, j'espère, développer cet acte. Le tout, évidemment, grâce à, je dirais, l'ISDAT qui fait un travail magnifique à cet égard.
Alors, il y a un programme très riche, là, parce qu'ils vont se confronter, évidemment, avec de grandes œuvres, hein, du répertoire de grandes œuvres symphoniques. Il y a Egmont, l'ouverture d'Egmont de Beethoven, la symphonie numéro 8 inachevée, le premier mouvement, Schubert, la 38, la symphonie 38 de Mozart, la 3e de Brahms, le 3e mouvement, 2 symphonies de Beethoven, la 2e et la 7e, et puis il y aura Ma mère loi de Maurice Ravel. Magnifique programme, et encore une fois, je le dis, c'est diffusé sur Medici TV. On peut y assister. Regardez ça, il ne faut pas s'en priver. Eh bien, nous allons écouter une des œuvres et un des mouvements au programme de l'Académie de direction d'orchestre avec cet extrait du 3e mouvement de la symphonie numéro 3 de Johannes Brahms, interprété par l'Orchestre national du Capitole, dirigé ici par le chef espagnol Juanjo Mena.
Thank you.
Le début du troisième mouvement célèbre de la symphonie numéro 3 de Johannes Brahms, interprété par l'Orchestre National du Capitole, dirigé par Juanjo Mena, c'est une des œuvres au programme de l'Académie de direction d'orchestre des Franco-Russes, à suivre mercredi 24 mars en direct sur Medici TV. Bon, on l'a dit, il y aura un ciné-concert le 26 mars, vendredi 26 mars à 20h. À la Cinémathèque de Toulouse va être projeté Le Pré de Bégin, film du grand réalisateur soviétique Eisenstein, tourné en 1935. Projection qui va être accompagnée d'une musique du pianiste Mathieu Regnault. Alors ça, ce sera diffusé sur quel support, Thierry Dargoubet, ce ciné-concert ?
Ça sera diffusé sur la chaîne YouTube de l'orchestre, sur le Facebook, mais également sur la chaîne des musicales franco-russes. Donc vous tapez musical franco-russe et vous allez également sur cette chaîne. Et ça sera cross-posté également par les partenaires du festival, que je remercie évidemment. Hein.
Ils sont nombreux, hein, mais bon, ça, il y a la plaquette, les gens pourront aller voir ça d'eux-mêmes. Donc les grands entretiens des franco-russes, alors ça, ce sera sur plusieurs journées, je suppose ?
Ça sera diffusé plusieurs journée. On est en train de finaliser les dates de diffusion. Vous pouvez les trouver sur le site web donc des Franco-Russes et ainsi que de tous les partenaires. La Dépêche, France 3, Medici, France Musique, etc. Donc en fait, on a vu finalement beaucoup de partenaires médiatiques qui avaient quand même envie de faire quelque chose pour ce festival, même si évidemment le festival est beaucoup plus light que prévu.
Alors ça va être passionnant ces grands entretiens parce qu'il y a vraiment des invités très très intéressants. Il y a Alexandre Orlov, ancien ambassadeur de Russie en France, si je ne me trompe.
Voilà,
et Pierre Morel, qui a été lui ambassadeur de France en Russie.
Et qui est le Sherpa d'Emmanuel Macron pour les affaires d'Ukraine, entre la France, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Et au-delà de ça, ça va être des confrontations, si vous voulez, de point de vue diplomatique au travers d'un regard culturel. Et ça, je trouve ça magnifique au fond.
Bah, tous vont raconter leur Russie, si on peut dire, leur relation en tout cas avec la Russie, avec la culture russe, oui. Tous ces liens très forts avec la France depuis plus de deux siècles. Voilà donc pour la programmation de la troisième édition des Franco-Russes qui ont lieu à Toulouse du 13 mars au 1er avril. Merci infiniment à vous deux, Serge Chauzier et Thierry Dargoubet, d'avoir été les invités de ce numéro et de nous avoir présenté les différents événements de ce festival maintenu. Et il faut s'en réjouir malgré la crise sanitaire et la fermeture des salles de spectacle au public. Je rappelle les dates et horaires des concerts programmés lors des Franco-Russes. Ce samedi 13 mars à 18h, un concert tout Prokofiev dirigé par Kirill Karabits. Vendredi 19 mars à 20h, un programme d'œuvres de Benjamin Tailleur, Serge Prokofiev et Tchaïkovski dirigé par Maxime Emelianichev avec la participation du violoniste Eileen Pritchin. Lundi 22 mars à 20h, un concert Aïda avec le quatuor de clarinette de l'Orchestre National du Capitole. Samedi 27 mars à 20h, un concert tout Shostakovich cette fois-ci dirigé par Tougan Sokiev avec le violoniste Vadim Glouzman en soliste invité. Jeudi 1er avril à 20h, concert de clôture avec le pianiste Bertrand Chamaillou, Tougan Sokiev à la baguette et des œuvres de Messiaen, Liszt et Tchaïkovski au programme. Notez d'autre part l'Académie de direction d'orchestre dirigée par Tougan Sokiev et Sabrié Bekirova mercredi 24 mars. Le ciné-concert du 26 mars à 20h à la Cinémathèque où est projeté Le Pré de Bégin, film du grand réalisateur soviétique Eisenstein. Et tous ces événements sont retransmis en direct ou en différé sur la page Facebook et la chaîne YouTube de l'orchestre ou sur France Musique et Medici TV. Pour en savoir plus, je vous invite à vous connecter au site www.lesmusicalesfrancorusses.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est disponible et téléchargeable comme d'habitude dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci de votre fidélité, très bon week-end et excellente semaine à tous.